Bonjour à tous, on reprend aujourd'hui Maseret Yevamot et Daf Mem. On va reprendre quelques mots dans la page d'avant. On a vu une machloket, comment expliquer le pasouk qui va maïa voilà. Est-ce que ça voulait enseigner? Est-ce que c'est venu nous enseigner qu'il était obligé de faire Yiboum plutôt que de faire Khalitza? Ou alors, est-ce que c'était, ça nous enseignait qu'il était obligé de le faire avec l'intention de faire Yiboum? C'est-à-dire que si il avait décidé de faire Yiboum parce qu'il trouvait cette femme sympathique, alors c'était pas un bon Yiboum, c'était là la machloket. Nous dit la Gemara et Maresha. Viens, on étudie la Recha de cette Brita, où on a un pasouk et une étude du pasouk qui ressemble à celui-ci. On verra par rapport à quelle lecture c'est le plus adapté. Matzot et Teachel bemakom kadosh. Donc on parle de menachot, de korban qui sont faits à base de farine. Il est marqué Matzot et Teachel bemakom kadosh. Mitzvah. Donc on vient à se dire que c'est une mitzvah. Shebatrila, aïta alav, bichla leter. Au début, avant de l'avoir sanctifiée, elle était permise. Nesra, elle est devenue interdite quand il a dit que ça allait être une mincha. Mais Chazra veut autant et puis elle est redevenue permise. Yachol Tarzor le Terra Rishon, est-ce qu'elle va revenir? Elle va revenir être permise comme elle l'était avant? Talmud Lomar Matzot Teachel Bemakom Kadosh Mitzvah. C'est pour ça qu'on te dit Matzot Teachel Bemakom Kadosh. L'Agmar explique. Mishlamar le Rava. D'après Rava, Deamar qui nous avait expliqué que Hamane Rabbanan, c'est-à-dire que cette Brita allait d'après l'avis de Rabbanan. Et donc quand il est marqué Mitzvah, c'est-à-dire ça venait nous enseigner qu'il est préférable de faire Yiboum plutôt que de faire Khalitza dans le cas de Yiboum et Khalitza. Acha, dans le cas de Matzot, de Menachot, Achi Kamar, Matzot, Achel Bemakom Kadosh, tu dois le manger Bemakom Kadosh, Mitzvah, c'est une Mitzvah de le manger et c'est pas simplement une possibilité, il a l'obligation de le faire. Chez Batrila, au début, Aïta Alav Bichlaleter, elle lui était permise. Et après, il n'était pas obligé de la consommer. Nesra lui est devenue interdite quand il l'a sanctifiée. Chazra Veutra, elle est redevenue permise après qu'on a fait le prélèvement, après que le Kohen ait fait le prélèvement de cette farine-là. Yachol Tarzor le Terra Rishon, est-ce qu'elle pourrait redevenir comme elle était avant? Ratsa Orla, Ratsa En Orla. Donc, est-ce qu'elle pourrait redevenir avec ce statut? S'il veut, il la mange, et s'il ne veut pas, il ne la mange pas. Non, ça c'est pas possible dans la lecture. Ratsa En Orla, quoi, tu veux dire qu'il aurait pu, s'il veut ne pas les manger, va active pour télémarquer va clôt ta machar kupar baem, mais la match akwanim, ochlim, ou baalim et kaprim, la achila, la consommation de ces korbanot fait à base de farine, c'est ça qui est l'accapara pour leurs propriétaires, et donc il est évident qu'il devrait avoir l'obligation de la consommer. Et la ratza ochla, ratza kohen acher ochla. S'il veut, lui, la consommer, tant mieux. S'il veut, il peut la donner à un autre kohen. Tamulomar matzot et achel bemakom kadosh. Donc ça vient nous dire que mitzvah, qu'il faut que lui-même la consomme. En d'autres termes, cette braïta, elle s'arrange très bien avec la lecture de Rava. Rava nous avait dit que quand il est marqué mitzvah, ça vient m'enseigner, sache que tu as l'obligation de le faire. Et tu peux pas dire, bon, c'est pas, si j'ai pas envie, je le fais pas. Donc, dans Yiboum, tu as l'obligation de faire Yiboum. Tu peux pas dire, bon, j'ai une autre solution, Khalitza. Dans Achilat Menachot, tu peux pas dire, j'ai une autre solution, je vais la donner à un autre Kohen. Tu dois le faire toi-même. Et là, le Rav Yitzhak Bar Dimi, qui lui nous avait donné une autre lecture et qui nous avait dit que ça allait d'après Abba Shaoul et qui nous avait expliqué que le mitzvah est venu m'expliquer que qu'il faut qu'il le fasse avec l'intention, en tant qu'une intention de mitzvah. Comment est-ce que tu peux avoir la havamina de dire, bon, il peut le faire de cette manière ou de cette manière, et s'il ne le fait pas comme il se doit, alors c'est ça que le pasouk est venu empêcher. Dans le cas de Yiboum, il doit avoir l'intention de Yiboum. Et s'il ne fait pas Yiboum, alors, et s'il ne fait pas dans l'intention de Yiboum, ah ben c'est très grave. Il se marie avec la sœur de sa femme. Donc on peut comprendre que le pasouk vient me dire attention à toi, hein, tu peux pas le faire avec une autre intention. Mais ici, au pire des cas, tu l'as pas fait avec la bonne intention. Tu n'auras rien transgressé. Maître Gavnika. Ritema, peut-être que tu vas me dire, Ratzal et Avon Ochla, Ratzal Chilagasor. Peut-être que tu vas me dire qu'au sujet des matzot, ici on l'expliquait comme ça. S'il veut, il peut le manger l'été Avon. C'est-à-dire, quand il a faim. Ratzal Chilagasor Ochla. Il le consommerait en tant que Chilagasor. C'est-à-dire quand il n'a pas faim. Quand il peut plus rien mettre dans la bouche. Et pourtant, nous dit la Gemara, Achila Gassa, Mishma Achila. La Achila Gassa, une Achila, donc, qui est grossière, n'est pas définie comme une Achila, comme il est marqué dans la marche, la Kisha, Achila, Achila Gassa, Yom Kippour. Celui qui, à la veille de Kippour, a mangé, 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 deux minutes après Kippour, il rentre. Il mange encore, il peut plus rien manger. C'est défini comme une Achila Gassa. Il n'a pas transgressé. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Lote Unne. Il y a marqué Kolanefesh, Charlotte Unne. Tu dois souffrir en ne pas mangeant. C'est-à-dire, tu dois faire attention à ne pas manger. Mais là, tu souffres en mangeant. Donc, ça n'est pas, tu ne transgresses pas l'interdit de Pourim, parce que ça n'est pas défini comme une consommation. L'interdiction de Kippour, parce que ça n'est pas défini comme une consommation. En d'autres termes, la Gemara nous dit, si ça n'est pas défini comme une consommation, et nous on se pose la question, qu'est-ce que le pasouk est venu m'enseigner? Attention, hein, tu la manges avec l'intention qu'il faut, mais si tu la manges en Achila Gassa, c'est pas bon. J'ai pas besoin du pasouk pour ça. Je le sais que Achila Gassa, une Achila de cette manière n'est pas définie comme une Achila. Et là, nous dit la Gemara, ratzah matzah ochla, ratzah chametz ochla. Ça dépend. S'il veut la consommer sous forme de matzah, cette farine-là, il peut, ratzah chametz ochla. C'est ce qu'on aurait pu imaginer. Active. Mais non, c'est évident qu'on n'aurait pas pu imaginer ça. Pourquoi? Il est marqué l'otéafet chametz chelkam. Il est marqué que, en vérité, il y a une virgule entre chametz et chelkam. Mais on le fait comme si c'était un pasouk entier, comme si c'était une phrase entière. L'otéafet chametz chelkam, ve'amarech lakish, ve'afilu chelkam l'otéafet. C'est-à-dire même la partie, celle qu'on a, qui nous reste après les prélèvements, les shiraim, celle-ci ne doit pas être matzah, elle ne doit pas être chametz, elle doit être matzah. Donc, qu'est-ce que ce pasouk viendrait exclure d'après l'explication d'après l'avis qui dit que ça va d'après Abba Shaul, qu'est-ce que ça viendrait exclure? La avamina que si je veux, je peux la consommer en tant que chamet. C'est faux, j'ai aucune avamina comme ça. Et là, ratza matza ochla, ratza chalut ochla. Peut-être que c'est venu nous dire qu'on aurait pu croire qu'il faut la manger en tant que matza, mais il y a matza qui est chalut. C'est-à-dire, quand on a fait cuire la farine, ou quand on a fait cuire la pâte, en tout cas dans les rishonim, mais en tous les cas, après les avoir fait, après, il y a un moment où cette pâte, elle a subi une cuisson. Et donc, on aurait pu croire qu'il peut le manger de cette manière ou de cette manière. Aïe, chalut echidame. Cette chalut, quelle est cette définition? Imatsahi, si c'est défini comme de la matzah. Ah, matzahi. Pourquoi est-ce que ça serait interdit? J'ai l'obligation de le manger en tant que matzah, c'est ce que je fais. Ilo matzahi. Et si c'est pas défini comme matzah, matzah tamarachmana, j'ai pas besoin d'un pasouk pour l'exclure. Pourquoi est-ce que ce pasouk viendrait me dire, attention, hein, ne te trompe pas, ne crois pas que tu peux le manger en chalut. Si behemet, c'est de la matzah, ben, alors mange-le en tant que matzah. Si ça n'est pas défini comme matzah, j'ai pas besoin d'un pasouk pour le préciser. L'on nous dit la Gemara. Le lame malach matzai. Behemet, c'est défini comme de la matzah. Ou le achit anabekra. C'est pour cela qu'il y a besoin d'un pasouk. Puisque c'est défini comme matzah, tu aurais pu croire que tu peux le manger. Le akev, pour te dire que non. Que bien que cette définition de chalout est définie comme matzah, en général, ici, on ne le veut pas. On ne l'accepte pas. Et on te dit, tu ne mangeras pas chalout. Et la chalout matzai de kamrina de maïl cheta. Alors, ok, si la définition, c'est que tu me dis en général, le chalout, c'est oui, une matzah. Mais ici, non. Quand est-ce que ça a un impact de dire que quelque chose qui est chalout, qui a été cuit, est défini comme la matzah? L'omar shadam yitzeva et de chorato be pesach. Pour nous dire qu'un homme peut accomplir la mitzvah de pesach avec quelque chose qui a été cuit, afalpi de chalte meikara. Même si il a fait cuire la pâte au début, qui vient d'adar a fait betalon, puisqu'au final, c'est passé par le four, lechem oni karinabe, il est défini comme un lechem oni, comme un pain pauvre, et donc, on va l'appeler un lechem, c'est pour ça qu'adam yitzeva et de chorato be pesach. Donc, bien que ça a été, ça a passé une étape de cuisson, à partir du moment où c'est passé aussi au four, c'est devenu une matzah. Chalouta, c'est une matzah kshara. Mais, dans les shiraim de Melachot, non. Donc, la braïta, qui était venue de départager entre la vie de Rava et de Rav Yitzhak Abba Rav Dimi, en fin de compte, ça n'a pas de preuve, c'est-à-dire qu'on peut l'expliquer, que ce soit d'après le premier ou le deuxième avis. Acholet Levim Ton, nous dit la Mishnah. Areu ki echal min achim min achala. Donc, celui qui fait chalitza, il est à égalité avec les autres frères au sujet de l'héritage. Donc, il va hériter avec ses frères. C'est pas parce qu'il a fait chalitza qu'il va perdre. Mais s'il y a, leur père est encore là. Nechassim shel av, les biens du défunt appartiennent au père, c'est la loi de l'héritage. Les frères peuvent hériter, mais si le père du défunt est là, c'est le père qui hérite. Hakonet cet yevimto, celui qui se marie avec cet yevama, zachab nechassim shel achaz. C'est lui qui a gagné au loto, il va avoir tous les biens de son frère. Rabbi Omer ben kach ou ben kach, que ce soit dans un cas où il a fait chalitza, ou que ce soit dans un cas où il a fait iboum, c'est le père qui héritera du défunt et non pas le yavam. Nechassim shel av. Nous dit la Gemara, sur la première renseignement de la Mishnah, il est marqué que celui qui fait chalitza, il est à égalité avec les autres frères dans le partage de l'héritage. Pshita, évidemment. Sal kalata chamin la chalitza im kam iboum kaima. On aurait pu croire que la chalitza est à la place du iboum. Venishkol kulhu nirse. Et qu'il prendrait tous les biens. C'est-à-dire, puisqu'il a fait chalitza, ah bah tu sais, quand tu fais iboum, c'est toi qui prends tout. Et ben là aussi, quand tu fais chalitza, c'est toi qui prends tout. Kamashman que non. Qu'il est à égalité avec les autres. Yachin nous dit la Gemara, si c'est ça le sens du chidush. Pourquoi est-ce que c'est marqué de cette manière? Il est à égalité avec les autres. Au contraire. On aurait dû dire qu'il n'a pas plus que les autres. Et non pas, il est à égalité avec les autres. Nous, on vient exclure la Havamina de dire, il a plus que les autres. On devrait dire, il n'a pas plus que les autres. C'est ça qu'on aurait dû dire. Et là, nous dit la Gemara, il va accéder à Iboum. On aurait pu croire que puisque, après lui avoir fait Khalitza, cette femme ne peut plus faire Iboum avec qui que ce soit, l'Iknesse, il devrait être pénalisé. Kamashmalan, qui n'est pas pénalisé, il a une part de l'héritage. Im yeshem av, si le père est vivant et que son fils est décédé, c'est lui qui hérite de tout. Damarmar, avrodem le rôle de tsirero. On ramène une Mishnah qu'on va étudier dans quelques années, dans Maseret Bavatra, où il est marqué que c'est le père qui hérite avant les frères. À connaître cet ébinto, il est marqué que si jamais il se marie avec elle, il hérite de tout. Alors que, Tanakama pense que c'est lui qui hérite de tout. Pourquoi? Maïtama, Yakum Alchem Achivavar. Voilà. La Torah nous dit que il va remplacer son frère, donc il va hériter de son frère, Verrekam, puisqu'il est venu et qu'il l'a fait, qu'il a remplacé son frère. Donc il le remplace entièrement, il devient propriétaire des biens de son frère. Rabbi Uda Omer, de toutes les manières, qui est-ce qui va hériter? C'est le père. Amaroula, Alakha ki Rabbi Uda, Verhen Amar Rabbi Yitzhak Nafa, Alakha ki Rabbi Uda, Alakha comme Rabbi Uda, que dans tous les cas, que ce soit un Yiboum ou que ce soit une Khalitza, c'est le père qui hérite. Pourquoi est-ce que Rabbi Uda pense que c'est le père qui hérite de toute manière? Parce qu'il est marqué, Vaya Bechor Asher Teled. Et on avait expliqué, il y a 15 jours, Vaya Bechor Asher Teled. On parlait non pas de l'enfant qui va naître, mais de l'aîné qui va faire Yiboum. Et donc, il est défini comme Bechor. Ke Bechor, Ma Bechor, En Lo Bechayehav. De la même manière que l'aîné n'hérite pas son père quand son père est vivant. Afaïname En Lo Bechayehav. Lui aussi n'hérite pas de son défunt frère quand son père est encore en vie, donc c'est le père qui hérite. Ima Bechor, Notel Pishnaim, Lacha Mitatahav. Mais si c'est ça ta source, alors tu devrais pousser le bouchon un peu plus loin. Ima Bechor, si le Bechor, Notel Pishnaim, il reçoit double part Lacha Mitatahav après le décès du père. Afaï, Notel Pishnaim, Lacha Mitatahav. Est-ce qu'on dirait que si jamais le père est décédé, après qu'il ait fait Yiboum, il devrait prendre deux parties, sa part et la part de son défunt frère? Pourquoi est-ce que, tu as décidé que c'était ça la source, alors va jusqu'au bout, définis-le comme un Bechor, et quand son père décède, il devrait hériter de la part de son frère. Midé Yakoum Al-Shema Viv-Ktiv, est-ce qu'il est marqué que il va hériter de son père? Yakoum Al-Shema Viv-Ktiv, Velo Al-Shema Viv, c'est-à-dire, n'est pas sûr qu'on apprend que l'héritage qu'il a le droit de prendre en général, c'est seulement quand il peut le prendre au moment où il fait Yiboum. Là, il n'y avait pas, bah, tant pis pour lui. Donc, il ne recevra pas plus au moment où il héritera de son père qui lui a hérité du défunt. Emma, je me dis la Gemara, autre question. Echad elekaav, peut-être qu'on dirait que quand il n'y a pas de père, l'ishkol nachala. Donc là, il a le droit de prendre un héritage, alors, titka mitzvat iboum. Echad elekaav, puisque dans le passé, on a lié le iboum et l'héritage. On te dit, bon, tu fais iboum, tu as l'héritage. Ah oui, mais il y a un cas où je fais iboum, j'ai pas l'héritage, c'est quand le père est là. Bon, bah, peut-être qu'on dirait comme ça alors. Si tu es capable de recevoir l'héritage parce que ton père est décédé, bah tu fais iboum. Et sinon, echad ikav de lo shakil nachala. Mais quand le père est là, l'otit kaim et tatiboum, on ne va pas faire iboum. La Gemara dit midei iboum benachala talarachmala. Est-ce que le iboum est dépendant de l'héritage? Yaboum et yabma, tu fais iboum. Ika nachala, tu prends. Ve ishkole, tu le prends. Ve ilo, et s'il n'y en a pas, lo shakil. Donc, d'après Rabbi Uda, il y a un père, tu hérites rien du tout. Il n'y a pas de père, tu hérites tout. Si ton père est hérité et que ton père est décédé après, tu n'hérites rien de plus que les autres frères. Yativ Rabbi Chaïna Kara Kame de Rabbi Anaï. Donc Rabbi Chaïna Kara, c'était un moumché dans les psukim. Donc c'était, il savait bien expliquer les psukim. Yativ et Kamar, il disait comme ça, Alakha Kara Rabbi Uda, Alakha comme Rabbi Uda, Amarle, Pouk Kre Kariach Levra, va enseigner tes psukim en dehors d'ici. En Alakha Kara Rabbi Uda, Alakha n'est pas comme Rabbi Uda. Tane Tana Kame de Rabbi Nachman, autre histoire qui ressemble à celle-ci. Il y a un Tana qui connaissait, qui était lui un connaisseur de Braïtot, et qui est venu, qui a ramené cet enseignement. Il a dit comme ça, En Alakha Kara Rabbi Uda, l'alakha n'est pas comme Rabbi Uda. Amarle Lakaman. Ah, bravo. Tu vas dire un gros chidouche. C'est quoi l'alakha n'est pas comme Rabbi Uda? Karabanan. Évidemment. Pshita. C'est évident. Yachid Rabbi Olakha Karabim. C'est pour ça que toujours les tamis des chachem me disent, qu'est-ce que tu es mechadesh? Les choses standards, c'est pas intéressant. On veut des nouvelles choses. Donc, qu'est-ce que tu es mechadesh? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? L'alakha n'est pas comme Rabbi Uda? Évidemment. On va d'après la majorité. Amarle. Alors, cette personne a dit à Rabbi Nachman, Ismaye. Est-ce que j'efface cette braïta? Est-ce que je dis que cette braïta, elle sert à rien? Amarle lo. At, il dit non, ne change rien du tout. At alakha tenir. Toi, on t'a enseigné une alakha. Et on t'a dit at alakha tenir, on t'a dit l'alakha est comme Rav Yehuda. Ou mekshaudak shelach. Et puis quand tu l'as appris dans le temps, tu te dis mais c'est pas possible, tu t'es dit que l'alakha est comme Rav Yehuda, c'est pas possible. Mais afarta, c'est pour ça que tu as dit non, sûrement que l'intention c'était de dire que l'alakha n'est pas comme Rav Yehuda. On maida part chapir d'apart. Et puisque tu l'as renversé, c'est-à-dire que l'alakha n'est pas comme Rav Yehuda, tu as raison. Donc Rav Nachman lui dit n'efface surtout pas cette braïta. Puisque tu as réparé c'est le braïta en disant que l'alakha n'est pas comme Rav Yehuda. Donc au final, dans deux histoires, on voit que l'alakha n'est pas comme Rav Yehuda. Si, même si le père est vivant, quand le Yabam est là, c'est lui qui va encaisser tout l'héritage de son frère. Acholetz le'evimto. Mishnah, deuxième Mishnah de la page. Celui qui fait Khalitza. Hu asur bikrovoteha, vehi asura bikrovav. Lui ne peut pas se marier avec les proches de cette femme. Et elle ne peut pas se marier avec les proches de ce Kholetz. Pourquoi? Parce que à travers la Khalitza, on va les considérer comme s'ils avaient été mariés. Et toute personne qui est interdite par le mariage sera interdite à ceux qui ont fait Khalitza. Ou, le Kholetz, Asur Beima, il ne peut pas se marier avec sa mère, la mère de cette femme. Béamima, ou Béamavia, ses grands-mères. Ou Bévita, ou Bévalvita, ou Bévalbna, ses filles et ses petites filles. Ou Béachota, il ne peut pas se marier avec sa sœur, Bisman Shehi Kayemet, tant que la Khalutsa est vivante. Puisque on a vu que l'interdit de se marier avec deux sœurs, c'est seulement quand l'une des deux est encore vivante, même si on a divorcé, il faut attendre le décès. Mais si elle n'est plus vivante, on a le droit de se marier avec la sœur. Véachim, ceux qui n'ont pas fait Khalitsa, Montarim. Donc, lui, il a fait Khalitsa d'une femme. Elle lui est interdite. Mais elle lui est interdite, pas seulement elle, toutes ses proches avec. Par contre, les frères qui n'ont pas fait Khalitsa, eux sont interdits de se marier avec elle, ça c'est évident, parce que c'est leur Khalutsa. Mais eux ont le droit de se marier avec la sœur de cette femme, avec la mère de cette femme, etc. Léhi, et elle est interdite. Avec qui? Béaviv. Elle n'a pas le droit de se marier avec Aviv. Comme si c'était le père de. Comme si elle était considérée comme sa belle-fille. Aviv, le grand-père de son mari, puisque elle est considérée comme la femme de la belle-fille, la femme de la belle-fille à son fils. Ou Bivno, elle ne peut pas se marier avec Bivno, c'est-à-dire le fils du Cholet, puisqu'elle est considérée comme Eshet Aviv. Ou Beven Bno, elle ne peut pas se marier avec son petit-fils du Cholet, puisqu'elle est considérée, je dis tout ça pour l'instant, c'est dans la Vamina, comme Eshet Aviv, c'est-à-dire la femme du grand-père. Béachiv, elle ne peut pas se marier avec le frère du Cholet, évidemment, c'est Eshet Aviv. Ou Beven Achiv, elle ne peut pas se marier avec le fils de son frère, du frère du Cholet, puisqu'elle est considérée comme sa tante qu'elle lui est interdite. Moutar Adam, Bikrovat, Tsarat, Khalutsato. Un homme a le droit de se marier avec l'approche de la Tsara, de la Khalutsa. C'est-à-dire, j'ai fait Khalitsa à A. Mon frère était marié avec A et B. Donc, il a une Tsara. Donc, moi, quand j'ai fait Khalitsa à A, toute la famille qui gravite autour de A m'est interdite. Mais la Tsara B, elle aussi, elle m'est interdite, oui. Mais ses proches ne me sont pas interdites. Donc, j'ai le droit de me marier, Moutar Adam, Bikrovat, la proche, Tsarat Khalutsato, la concurrente de sa Khalutsa. Véasour, par contre, il n'a pas le droit de se marier. Betsarat, Krovat Khalutsato. Tsarat, la concurrente, Krovat Khalutsato. C'est-à-dire, la proche de sa Khalutsa, elle était mariée à un homme, et cet homme-là avait deux femmes. Alors, il est interdit de se marier avec ces deux femmes-là. C'est-à-dire, par exemple, il n'a pas le droit de se marier avec la sœur de sa Khalutsa. Si la sœur de sa Khalutsa était mariée avec un homme qui avait deux femmes, lui sera interdit de se marier avec les deux femmes. La Gemara expliquera la différence dans un instant, enfin, à la fin de la page. Ibayaleu, Gazru, Chignot, Olo. On avait déjà vu ensemble qu'il y avait des chignotes, c'est-à-dire des seconds degrés. On a une liste de femmes qui sont interdites et on avait élargi les interdits, on était parti à un niveau au-dessus. Par exemple, la grand-mère, la Ishto, l'arrière-grand-mère de sa femme, la mère de la mère de la mère de sa femme, l'arrière-grand-mère de sa femme. Donc, est-ce que quand on t'a dit, tu sais, cette Khaloutsa a été interdite comme si c'était ta femme, et donc maintenant, est-ce que les chignottes, le second degré aussi, vont être interdits ou pas? Beuvrevadeoraita, une femme qui est interdite, une Torah, Gazrubeurabanan, chignot, Rabanan, on crée un second degré, mais Bechaloutsa, l'interdit des proches de la Khalutsa. Il est seulement mis des Rabbanan. Peut-être que le gazon chignote. Peut-être que Rabbanan n'ont pas instauré l'interdit des chignotes. On dit le Maloshna, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Et là, quand on a décidé que elle était interdite, les proches étaient interdites, ben c'est tout ce qui est défini comme proche. Et donc, puisqu'il y a des proches mis des Rabbanan, c'est pareil pour tout. Tashma. La Gemara va disséquer notre Mishnah, à travers notre Mishnah, arriver à une conclusion. Tashma. Ou Asur, Be'imah, ou Be'amimah. Il a fait Khalutsa d'une femme, il est interdit de se marier avec la mère et avec la grand-mère. Veilu mm ima lokatane. L'arrière-grand-mère, elle n'est pas marquée. Dilma, t'as aimé, donc tu vois bien que bah, ça s'arrête là et pas plus que ça. Et on nous dit non, peut-être que non. Dilma, il nous t'a madelotane. Pourquoi là, on ne l'a pas marqué? Michoum le kabel et mettez la sefa, puisque dans la sefa, on voulait marquer Veha achil mutarim. Ses frères, à lui, du cholet, celui qui a fait la khalitsa, eux peuvent se marier. Vitana mm ima. Si on avait écrit l'arrière-grand-mère, avamina, achil mutarim dafka bm ima. On aurait dit qu'ils ont le droit de se permettre qu'à ce niveau-là. Mais BMIMA, dans la grand-mère ou dans sa mère, on aurait dit que c'était interdit. C'est pour ça qu'on a préféré ne pas parler de l'arrière-grand-mère. On m'a dit, mais je ne comprends pas. Litne MMIMA, t'as qu'à marquer l'arrière-grand-mère. Donc lui est interdit de se marier avec la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère de cette femme à qui il a fait Khaloutsa. Ve Litne, il est mis à part sa marque. Ve Achim, Mutarim et Kulan. Et les frères ont le droit de se marier avec toute la famille. Donc comme ça, tu n'aurais pas eu de problème. Kashia, bonne question. C'est-à-dire que on avait une preuve qu'on a essayé de réfuter, on a annulé la question qu'on avait Donc la preuve est censée rester là. Mais la Gemara continue. Tashma, hi, asura, elle ne peut pas se marier. Be'aviv ou be'avi-aviv, elle ne peut pas se marier ni avec le père de son cholet, ni avec le grand-père de son cholet. Katane miham, qu'elle est interdite, avi-aviv, qu'elle est interdite de se marier avec le grand-père de celui qui lui a fait chalitza. Ma'ilav, mishum cholet. N'est-ce pas que l'interdit, c'est parce que elle a une proximité à travers la personne qui a fait une chalitza. Daviala, kalat bno, et kalat bno, c'est-à-dire la belle-fille de mon fils. La belle-fille de mon fils, ma belle-fille m'est interdite. La belle-fille de mon fils, c'est le deuxième degré, c'est la génération d'après. Et donc, elle a fait chalitza. Le grand-père de celui qui a fait chalitza lui est interdit. Pourquoi? Parce qu'elle est définie comme la belle-fille de son fils. Comment est-ce qu'elle est belle-fille? Elle a fait chalitza. On a dit chalitza est égal mariage. Donc, la belle-fille, elle est considérée comme la belle-fille de son fils. Donc, on voit qu'on interdit une proximité chinia, second degré, même dans le cas de la chalitza. Et on nous dit non. Mishum mitna, c'est pas parce que elle a fait chalitza, c'est parce qu'elle était mariée avec le défunt. Et Daviel est kalat bno, et donc par rapport à lui, c'est le même grand-père, hein, puisque ils sont frères, donc c'est le même grand-père. Donc le grand-père, il avait, au moment où elle était mariée avec le défunt, elle était la belle-fille de son fils. Donc elle était interdite à ce moment-là, c'est pour ça qu'elle est interdite. Tashma, autre preuve, il est marqué ou beven bno, c'est-à-dire que la chalutza ne peut pas se marier avec le petit-fils, Ben Bno, elle ne peut pas se marier avec le petit-fils de celui qui a fait Chalutza. Maïlav, n'est-ce pas que c'est Mishum Cholet, parce qu'elle est en proximité avec le Cholet. Daviela, et donc elle est définie comme Eshet Avi Aviv. On la considère comme si c'était la femme du grand-père. Et ça, c'est un interdit Midera Banan. Donc on voit que ma proximité, pas avec le Cholet, qui a créé une Shinia, c'est interdit. L'on dit la Gemara, Mishum Mitna, ce n'est pas par rapport au lien qu'elle a avec le Cholet, c'est par rapport au lien qu'elle a avec le défunt. Et elle, c'est la grande tante en vérité. C'est-à-dire que le petit-fils de celui qui a fait la chalitza, elle, quand elle était mariée avec le défunt, quand il était vivant, elle avait un statut de grande tante par rapport à lui. Elle était Echet, la femme de Achi Avi Aviv, du frère de son grand-père. Et ça, c'est un interdit par rapport à ça. C'est un interdit midérabanan. Mais c'est pas parce que c'est passé par la case chalitza. Elle était déjà interdite avant même de faire chalitza. Dans la Gemara, Amemar marcha Echet Achi Avi Aviv. Mais Amémar lui-même pense que cette femme est permise, la grand-tante, c'est-à-dire la femme du frère du grand-père, elle est permise. Donc ça ne peut pas être la raison pour laquelle on l'interdit ici. Donc on devrait revenir à la preuve et dire que on a interdit Shniot même dans Khalitza. La Gemara nous dit Amémar Mokela, Bebar, Brad et Sava. Quand il est marqué dans la Mishnah, Bno ou Ben Bno, on ne parle pas du fils et du petit-fils de celui qui a fait Khalitza. On parle du fils ou du petit-fils, ben bno, c'est-à-dire de celui qui a été cité précédemment. Et là-bas, on parlait du père de celui qui a fait chalitza. Donc, on a deux frères, A et B, Reuven et Shimon. Ils ont un père, ce père-là, bno, donc le fils de ce père, ou ben bno, le petit-fils de ce père. Donc, on parle en vérité du frère du cholet et du fils du cholet. Donc, bebar, bra, desaba. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, l'interdit qu'elle a de se marier, c'est quelque chose qui passe pas par le cholet. C'est quelque chose qui est lié directement au mariage qu'elle avait au défunt. Yachi, aïno achi vu ben aviv. Bon, mais si c'est comme ça, alors je comprends pas. Dans la marita, dans la mishta, qu'est-ce qu'il est marqué? Il est marqué qu'elle est interdite bno ou ben bno, et il est marqué aussi son frère et le fils de son frère. Mais si on explique. Si on avait expliqué Bno ou Ben Bno, c'est-à-dire qu'on parle, le point de départ c'est le Cholet. Le fils et le petit-fils du Cholet. Très bien. Mais si tu me dis qu'on parle du père du Cholet, alors le fils du Cholet c'est qui? C'est le frère du Cholet. Et le petit-fils du grand-père c'est qui? C'est le neveu du Cholet. Donc on se répète, on répète deux fois la même chose. On te dit qu'elle a parole de se marier avec Bno ou Ben Bno. On te dit qu'elle a parole de se marier avec son frère et le fils de son frère. Mais au final, on parle de la même chose. On parle des frères par le père, des frères par la mère, et c'est pour ça qu'on l'a dit de cette manière. Donc la femme n'a pas le droit de se marier ni avec le frère du cholet, ni avec le fils du cholet, que ce soit par le père ou que ce soit par la mère. Tashma, autre preuve, de Taner Avichia. Avichia nous enseigne Arba Midivatora. Il y a dans la chalutza qui est interdite aux proches du cholet, il y en a 8. Arba Midivrei Torah, 4 interdits Minatora, pas à travers le mort, ve Arba Midivrei Sofrim, et 4 Midrabanan. Et donc, qui sont les 4 qui sont interdits? Av, le père du Cholet. Bno, le fils du Cholet, apparemment, Achiv, le frère du Cholet, ou Ben Achiv, est le neveu du Cholet. Donc, eux, ils sont interdits, midi vrai Torah. Pourquoi? Puisque eux, le, par exemple, je vais prendre l'exemple du père du Cholet. C'est en vérité le père de son défunt mari. Donc, elle pourrait faire, enfin, on lui proposerait de faire Eboum avec un homme qui lui est interdit, midi vrai Torah. Ça, c'est les quatre qui sont interdits, midi vrai Torah. C'est les quatre autres qui sont midi vrai Rabbanan. Avi Aviv, le grand-père du Cholet. Ve Avi Imo, l'autre grand-père, par le père ou par la mère. Ben Bno, le petit-fils. Ben Bito, et l'autre petit-fils. Midi vrai Sofrim. Donc, elle est interdite aux grands-parents du Cholet. Elle est interdite aux grands-parents du Cholet et aux petits-enfants du Cholet, Midi Rabbanan. Mais la Gemara, Katanemia, il est bien marqué à Via Viv qu'elle est interdite de se marier avec le grand-père du Cholet. Maïlav, Mishum Cholet, n'est-ce pas que le problème, c'est parce que c'est le grand-père du Cholet, la Viala Kaladbno, et on le considère comme Kaladbno, donc on te dit, madame, vous êtes en proximité avec lui à travers la Khalitsa, on ne s'est pas marié, oui, mais Khalitsa, c'est quand même une proximité. Mais attends, mais moi, mon statut, c'est un statut de Shnia. C'est un statut de second degré. On voit qu'il y a un interdit de second degré, même dans Khalitsa. On nous dit non, l'eau, Mishou Mitna. C'est pas parce qu'elle est maintenant, elle a fait Khalitsa. C'est parce qu'elle était précédemment mariée avec le défunt. Il y avait les Kalabno. Et la Bémet, quand elle était mariée avec le défunt, elle était Bémet Kalabno. Donc c'est pour ça que, quand elle veut se marier avec le grand-père, elle ne peut pas. Midera Banane, mais pas sous forme de Khalitsa. Midera Banane, par Midera Banan, parce qu'elle est définie comme Kalalbo, Tashma. Avi Imo, il est marqué que Avi Imo, elle n'a pas le droit de se marier avec le grand-père de son Cholet. Maïla, là ça va se répéter, Mishum Cholet, n'est-ce pas que c'est parce qu'elle est proche du Cholet, d'Aviala Kalalbito, donc elle est définie comme la belle-fille de la fille, et donc c'est seulement Midera Banan, et on voit qu'à travers la proximité de la Khalitsa, on a les Shniot, l'onu Jagmara, Mishum Mitla, la proximité qu'elle a avec le mort qui est avec Ressa, d'Aviala Kalalbito. Elle est définie comme, véritablement, comme la kala de la fille, et c'est pour ça qu'elle est interdite. Donc, à chaque fois, on a les deux frères. On peut imaginer que l'interdit, il est par rapport à son statut d'aujourd'hui, de Khalitsa, et on voit qu'on va prendre en considération, niveau chenille, les chignottes par rapport à la Khalitsa, on répond non. On regarde pas par rapport au frère avec qui il a fait Khalitsa, par rapport au frère avec qui il était marié. Et là, son statut, Midirabana, il était déjà acquis. Tashma ben Bno, elle n'avait pas le droit de se marier avec le petit-fils de celui qui a fait Khalitsa. Maïlav, n'est-ce pas que c'est Mishum Cholet? Elle n'a pas le droit de se marier avec le petit-fils de celui qui a fait Khalitsa, parce que c'est Cholet, c'est Davele, Keshet, Avi Aviv. Elle est considérée comme la femme du grand-père. Donc, elle ne peut pas se marier avec le petit-fils de celui qui a fait Khalitsa, parce que elle est comme si elle avait été la femme de ce grand-père. Et on nous dit non, Mishum Mitla, par rapport au défunt, Davele, Keshet, Achi, Avi Aviv. Elle n'est pas comme si elle était la femme du grand-père. Elle est comme si elle était la grand-tante, la femme du frère du grand-père. Echet, elle est la femme de Achi, du frère de Avi Aviv, du grand-père. Vea Amina, ma mémoire marche avec Echet Achi Avi Aviv. Comment est-ce que tu peux m'expliquer que c'est ça la raison? Lui pense que cette femme est permise. Donc forcément, c'est parce qu'elle est la femme du grand-père, c'est-à-dire du Cholet. Et donc on voit qu'il existe un statut de Shniot, même dans Khalitsa. Pour la Gemara, non. Amemar Mokimla Mishum Cholet. Tu as raison, pardon. Amemar, il explique que c'est comme tu as dit, et lui pense que Kassavar Gazeru Shniot Bachalutza, c'est-à-dire, on n'utilise pas la réponse qu'on a amenée tout à l'heure, techniquement on ne peut pas l'utiliser, donc elle est la femme du grand-père qui est le Cholet, mais elle n'a pas fait de mariage, oui bon c'est Khalitsa, alors c'est comme un mariage, mais la femme du grand-père c'est que des Rabbanan, tu vois que les interdits de Shniot sont même dans une Khalitsa. Tashma, demande la Gemara, Amen la Gemara, Ben Bito, elle n'a pas le droit, de se marier avec Ben Bito, avec le petit-fils du Cholet. Maïlav, Mishum Cholet. N'est-ce pas que c'est parce que c'est le petit-fils du Cholet? Davelek Echet Avi Imo. Puisque elle est définie comme Echet Avi Imo. C'est-à-dire, la femme du grand-père par la mère. C'est-à-dire que ils ont une fille qui, elle, a eu un fils qui est Cholet. Donc, elle est la femme du grand-père. Lo, Mishum Mitna, Davelek Echet Achi Avi Imo. Non, on ne considère pas ça par rapport au Cholet, mais par rapport au mort. Donc, le petit-fils qui est né, le petit-fils du Cholet, il est défini par rapport à elle comme étant Echet. Elle est définie comme par rapport à lui plutôt. Elle est la femme du grand-père par la mère. Vagabeshniot d'Ervalogazo. Mais ça n'existe pas, c'est interdit. Donc, comment est-ce que tu peux dire qu'elle est interdite par rapport à son statut de femme mariée au défunt Et donc, le statut qu'elle a acquis à ce moment-là, quand il était vivant, par rapport à cet enfant, et là, mishum cholet, forcément, c'est parce que cholet, ou shmamina, gazochen, bachalita, shmamina. Donc, on comprend de là et on conclut qu'il existe un interdit de shinon en chalitza, c'est-à-dire, quand tu as fait chalitza à une femme, tu es interdit ses proches. Qu'est-ce qui s'appelle ses proches? Non seulement ceux qui sont définis comme des proches minatora, mais même ceux qui sont définis comme des proches midrabanan, c'est la conclusion de la Gemara. On a vu que on a le droit de se marier avec krovat tzarat chalutzato. On va expliquer dans un instant. Amar Rav Tuva bar Tuvi bar Kisila mar Shmuel. Un baal tzarat chalutza. Donc il a fait une chalitza, et puis il a pris, s'est marié avec la concurrente de sa, la femme avec qui il a fait chalitza. Avlad mamzer. L'enfant est défini comme mamzer. Ma'itama be'isura kayma. Cette femme-là reste interdite en tant que shetachiv. C'est-à-dire, il y a l'obligation de faire chalitza. On a plusieurs femmes, il faut faire chalitza. Quand tu as fait chalitza avec une femme A, c'est vrai que les autres ont le droit de se marier, mais ça n'est pas considéré comme si les autres avaient subi la chalitza. Simplement, à partir du moment où il y a une chalitza qui a été faite, elles ont été libérées. Donc cette femme, elle reste, elle garde son statut de eshet achiv, et donc elle est interdite, et c'est pour ça que l'enfant est mamzer. Je suis d'accord avec toi, on a une preuve. Il marque qu'un homme peut se marier avec krovat, l'approche tzarat chalutzato. C'est-à-dire qu'il a fait chalitza à A, B et la tzara, B a des proches, le cholet peut se marier avec elle. Yamad bishlama tzara abaraï mishum achim utar beachota. Si tu m'expliques que la tzara elle est abaraï, c'est-à-dire elle est extérieure, c'est-à-dire que la tzara, je ne la définis pas comme si elle avait subi une chalitza à travers celle qui a fait la chalitza. Deux femmes, tu as fait chalitza à A, B est aussi permise. Ça ne veut pas dire qu'on considère que la chalitza que tu as fait à A, elle est utilisée comme si tu avais fait une chalitza à B. La chalitza à A valide le droit de mariage pour B, mais elle n'a pas subi le chalitza. Et donc, je comprends que, puisque cette chalitza, c'est la chalitza qui crée un contact entre toi et cette femme, et c'est pour ça que tu es interdit de se marier avec ses proches, c'est que par rapport à la chalitza, mais par rapport à la concurrente, ça a créé aucun contact. Donc, tu peux te marier avec ses proches. C'est pour ça qu'il se fait marier, il peut se marier avec la sœur de B. Et là, il y a Matsara Khalutsalamie. Mais si tu dis que la Tsara, elle est comme la Khalutsa, c'est-à-dire on considère qu'elle a elle-même subi une Khalitsa, pourquoi est-ce que je dois me marier avec sa sœur? De la même manière que Midera t'a dit, t'as fait Khalitsa, bon, c'est comme si tu étais marié avec elle, t'as pas le droit de te marier avec ses proches. Bon, mais Khalitsa, c'est défini comme une Khalitsa pour B aussi. Et donc, tu devrais interdire de se marier avec ses proches. Amaïmoutar. Donc, la Gemara ramène une preuve que la Khalitsa qui est faite à une des femmes du lot, c'est pas une chalitza qui est appliquée sur toutes les femmes. Les matevetiyuta de Rabbi Yochanan. J'espère que vous en êtes rappelé de cette marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ne'amar ben hu ben achin en chayvin lo al chalutza karet v'lo al tzarata karet. Si jamais il y a eu une chalitza qui a été faite, alors puisque la chalitza a été faite, l'interdit d'avoir un rapport avec cette femme, il s'est transformé. Avant, c'était défini comme eshet achiv. Maintenant qu'il y a eu chalitza, puisqu'il y a eu chalitza, alors c'est loiv nebay, tu sais. T'as pas saisi ta chance au vol, tant pis pour toi. Mais elle ne garde pas son statut de Eshet Achiv, elle ne revient pas à son statut de femme de son frère, elle a un statut de Loïvne. Ça, t'as plus le droit de l'essayer. Et ce statut, il est pour toutes les femmes et pour tous les frères. Donc, En Chayavin, Ben Hu, Ben Achin, que ce soit lui ou que ce soit le frère, En Chayavin, Lo Al Chalutza, Velo Al Tzara Takaret. Ni sur elle, ni sur les autres. Donc, à partir du moment où il y a une Chalitza, ça fait une chalitza appliquée sur toutes les femmes. Donc il y a une preuve de notre Mishnah contraire à ce que tu viens de dire. Donc les maths et de Rabbi Yochanan, dans notre Mishnah, on voit qu'on a le droit de se marier avec la korvat tzarat chalutzato, c'est-à-dire avec l'approche de la tzara, de la concurrente, de la chalutza. Qu'est-ce qu'on a compris de cela? Que la chalitza que j'ai fait, elle était que sur A et pas sur B. C'est pour ça que je peux me marier avec l'approche. Mais toi, tu me dis que quand je fais chalitza, ça permet. Ça change le statut de toutes ces femmes-là. Donc, ça veut dire que tu considères que la chalitza s'applique sur toutes les femmes. Mais quel rapport? Achot chalutza de oraita. De se marier avec achot chalutza, c'est de oraita. C'est-à-dire, pardon, j'ai mal lu. Achot chalutza de oraita. Est-ce que tu penses que de se marier avec la sœur de la chalutza, c'est minatora? Évident que non. C'est ici que Rabbi avait enseigné. Achot gusha. De se marier avec Achot Groucha, c'est-à-dire la sœur de mon ex-femme, c'est interdit. Mais Achot Chalutza, c'est Midivre Sofrim, c'est seulement Midarabanan. Donc, tout l'interdit de se marier avec les proches de Chalutza, il est seulement Midarabanan. Donc, je peux comprendre que quand c'est nous qui avons formaté cet interdit, on l'a interdit que sur la Chalutza. Bien que je considère que les autres, elles ont été comme si elles avaient été fait Chalutza, mais il faut arrêter avec les comme. C'est-à-dire, La femme qui a fait Khalitsa, c'est comme si elle était mariée. C'est comme si elle était mariée, donc tes proches, t'es interdit à toutes ses proches. La femme qui n'a pas fait Khalitsa, c'est comme si elle avait fait Khalitsa. C'est comme si elle avait fait Khalitsa. Et c'est comme si elle était mariée. Non, ma pitom. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de se marier avec les proches de la Tsara, de la Khalitsa. De la Khalutsa. Maishnahai ou Maishnahai. Dans la fin de la Mishnah, on a vu qu'il y avait deux sortes de femmes. C'est-à-dire, il avait le droit, Mutar Adam et Kovat Tsarat Khalutsato, il a le droit de se marier avec la Tsarat, Kovat Tsarat Khalutsato, l'approche de la concurrente qui a subi la Khalitsa, mais Assur, il n'a pas le droit de se marier avec Tsarat Kovat Khalutsato, avec la concurrente de l'approche de sa Khalutsa. C'est-à-dire, j'ai fait Khalitsa A, et sa sœur est mariée avec quelqu'un d'autre, et elle a divorcé, je vais me marier avec la concurrente? Non. Pourquoi? Quelle différence? L'Agma nous dit, Hach de Azla Be'adal et Bedina. Dans la Kovat Khalutsa. Alors, elle accompagne son amie, la Kovat Khalutsa, la sœur, par exemple, de la Khalutsa, elle va l'accompagner au Bedin. Gazrubi Urabanan. Donc, les gens vont dire, en fin de compte, qu'est-ce qui a fait Khalutsa? La sœur A, la sœur B. Donc, puisqu'on a interdit de se marier avec l'approche de la Khalutsa, c'est pour ça qu'on a interdit de se marier avec, puisque l'approche de la Khalutsa l'accompagne, sa sœur qui va faire Khalutsa, on a interdit de se marier avec la concurrente aussi. Par contre, si je fais Khalitsa A, B ne l'accompagne pas. La femme qui était avec elle mariée à la même enseigne, elle ne va pas l'accompagner. Donc personne ne va se tromper. Donc le gazrubi ou rabanan. Donc si j'ai deux femmes dans le même mariage, dans le même lot, je fais Khalitsa à l'une, l'autre, évidemment, elle m'est interdite, mais ses proches à elle sont permises. Par contre, si j'ai deux sœurs et que j'ai fait Khalitsa à une des deux, l'autre sœur, je ne peux pas me marier avec elle. Mais même les proches à elle, je ne peux pas marier. Puisque, sachant que cette sœur, elle s'accompagne pour aller faire Khalitsa, on ne sait plus qu'elle fait Khalitsa. Donc, on a interdit toutes les proches de toutes les des deux femmes. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. On a ramené une braïta qu'on devait expliquer d'après Abba Shaoul et d'après Chachamim. Qu'est-ce que le pasouk qui est venu enseigner dans les matzot? Première explication, il vaut mieux que tu le manges toi plutôt que de le donner à un Kohen. Deuxième explication, ne mange pas une matzah chalouta, mange-la en matzah. Mais pour une matzah de Pessah, une matzah chalouta, ça marche. On a vu que celui qui fait une chalitza pour la Yevama, alors il va être à égalité dans l'héritage par rapport aux autres. Si le père est vivant, c'est le père qui hérite. S'il a fait Yiboum, c'est lui qui prend tout l'héritage. Rav Yehuda me dit que même s'il a fait Yiboum, s'il y a un père, c'est lui qui hériterait tout. La halakha n'est pas comme Rav Yehuda. Si c'est lui qui a fait Yiboum, c'est lui qui hérite de tout. On a vu que celui qui fait une Khalitsa à une Yevama, il est interdit autant dans la Khalutsa, autant dans toutes ses proches. Et on les a cités. On s'est posé la question dans la Gemara. Est-ce que on a les Shniyot, c'est-à-dire dans la liste des proches de la Khalutsa, est-ce qu'on va interdire les Shniyot? On a conclu que oui. Elles vont être interdites. On a vu aussi que il a le droit de se marier avec les proches de la Tsarat Khalutsa, mais il n'a pas le droit de se marier avec les proches de la Korova de la Khalutsa. C'est-à-dire, si j'ai fait Khalitsa A et que B a été libéré à travers cette Khalitsa, eh ben je peux me marier avec les proches de B. Mais si j'ai fait Khalitsa A et B, qui est sa sœur et qui est Bichlal, pas dans ce lot, elle a eu, elle, dans son mariage, une Sarah, une concurrente, on m'interdira de marier avec les proches de cette femme-là, puisqu'on ne saura pas qui a été la Khalutsa et qui n'a pas été, et qui est-ce qui était simplement accompagnatrice d'Afekla Baruch Hashem. N'oubliez pas de faire Hazara, et à demain, Bezrat Hashem.